fois, mais bon, j'ai vu comment questionnaire.
Ouais.
Est-ce que c'est par choix, par problème méthodologique, parce que
Sur la question orientation politique?
ouais, est-ce que vous êtes de gauche ou de droite, ou est-ce que c'est aussi
Est-ce que ça vous
a
donne
priori c'est pas pertinent
Est-ce que j'ai. Je sais plus, parce que en fait, il y avait le questionnaire test. Je sais plus si j'avais mis ça. Non, non, je l'avais pas mis. Je sais, mais ça
Il y
m'est
avait
pas
un
venu.
parti.
Pourquoi c'est. Parce qu'en fait, c'était quoi vous voudriez tester derrière? Savoir si c'est des joueurs plutôt à gauche, plutôt à
Non,
droite?
c'est juste parce que comme ça apparaît dans les diagrammes de distinction de Bourdieu, etc.
Ah oui,
Et
d'accord, ouais. Non,
tu...
non, cette dimension-là, non, je l'ai pas prise en compte. Voilà. Mais effectivement, j'aurais pu, mais ouais. Mais effectivement, ça n'a pas
Mais est-ce
été.
que les gens auraient répondu?
Je sais pas, je sais qu'il y a des questions auxquelles ils n'ont absolument pas répondu, que j'avais posé dans le questionnaire test, que j'avais viré. Qu'est-ce que c'était qui avait posé problème? Je ne rappelle plus. C'était pas les questions, mais c'était une question.
De religion,
Ouais,
philosophie.
pardon, ben voilà, religion. Ouais. J'avais demandé religion et ils avaient dégagé. Enfin, personne n'a répondu, certains m'avaient dit ça en non. Et l'autre, c'était. Il y avait un autre truc où j'étais assez surpris en fait, ils répondaient pas. Alors, c'était pas sur le salaire, parce que je pensais qu'ils allaient tous m'interdire le salaire. En fait, j'avais le taux de non-réponse traditionnel dans les questionnaires sur ça.
C'est-à-dire?
Non, c'était sur le salaire des parents, voilà. J'ai pas réussi à avoir le salaire des parents. J'ai réussi la profession, mais. Ouais.
Peut-être qu'ils le savaient pas.
De
Ça,
quoi?
ouais.
Peut-être qu'ils le savaient pas.
Oui, peut-être, mais non, mais là c'était quasiment zéro réponse et avec des commentaires en disant ça, pourquoi tu demandes ça, voilà.
Ah oui.
Voilà.
Et donc ils te donnaient leur salaire.
Ouais, eux, ouais. En fait, j'avais fait des fourchettes, hein. J'avais pas demandé de salaire, j'avais fait des fourchettes. Hein.
Non, je demande parce que moi je suis sur une enquête de l'INSEE et j'ai genre 80% de non-réponse sur le revenu.
Ouais, mais j'avais beaucoup, hein, ouais. Mais t'avais fait en fourchette aussi?
Non, enfin,
Ah
c'est une
non, oui,
enquête
c'était eux.
que
Mais il avait
j'utilise,
posé
mais
comment en fait?
c'est parce que toi ton public est assujetti à l'ISF, c'est pour ça.
Non, pas du tout. Non, c'est une enquête de l'INSEE représentative,
Ouais.
etc. Et sur les pratiques culturelles, et la question revenu, elle est aberrante, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, une proportion folle de non-réponses, et en plus, une répartition
Ouais.
qui ne veut rien dire.
Donc en fait, les questions de distinction, je les ai mesurées sur les pratiques culturelles essentiellement en fait.
Et à votre avis, c'est uniquement, enfin, c'est un choix personnel de ne pas répondre à ce genre de questions ou ça obéit aussi au fait que sur les forums, sur les communautés, tout ça, enfin, souvent c'est des sujets qui sont vraiment bannis, quoi, sur la
Ouais.
religion, la politique, tout ça.
Je sais pas. Là, honnêtement, je saurais pas parce qu'il faudrait comparer avec des situations, enfin, peut-être d'autres expériences ici sur
Parce
les
que.
questionnaires réels. On sait qu'on a, enfin, traditionnellement, on sait qu'on a des taux de non-réponse qui sont très élevés sur effectivement religion et les salaires. Et on sait aussi où est-ce qu'on a le plus de non-réponse, c'est-à-dire par exemple les catégories intellectuelles, enfin, cadres supérieurs. Ont tendance à pas répondre à ces questions-là et à certaines questions. Alors, répondre de façon. Là, je renvoie à un bouquin de méthodo de Matalon, Guilian et Matalon. Ils avaient travaillé, pas du tout sur Internet, mais qui avaient analysé des analyses de questionnaires et en montrant qu'en fait, on a certaines catégories sociales en fait, qui répondent très peu et qui, sur certaines questions, ne répondront jamais. Donc après, non, j'ai pas mesuré, si vous voulez, de choses extrêmement différentes. Alors, le truc qui m'a surpris, voilà, si, c'était. Un truc que j'ai viré, c'était le nom de l'avatar. Hein, parce que je m'étais dit. Enfin, je m'en doutais un peu, mais je pensais pas que ce serait rejeté au même niveau que d'autres choses. Ce que je voulais mesurer, c'était la. Je voulais mesurer des effets de distinction sur le choix du nom de l'avatar. Hein, voilà. Entre quelqu'un qui va s'appeler Cruchot et quelqu'un qui va prendre autre chose que le gendarme à Saint-Tropez. En fait, j'avais demandé ça, les noms des avatars. Et c'était une logique, comme si je demandais quelque chose de très très personnel. Et qui effectivement faisait que.
Ils étaient anonymes, tes
Oui, mais
questions. Bah, du
justement.
coup, ils
Ah
étaient
ouais.
plus. Ouais.
Donc.
Ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure dans son problème du hacking. Enfin, demander quelqu'un son
Ça,
avatar, c'est
je l'ai
assez.
dégagé. Et en fait, je l'ai étudié après en regardant les noms, en notant tous les noms que je croisais. Et après, surtout en analysant le nom des guildes. Entre eux, je ne sais plus qui en parlait, les bronzés fonds du ski, ceux qui vont dire les chevaliers du Nid en référence au Monty Python. En fait, je suis retombé sur. Enfin, ça, j'ai pas pu le mesurer par les questionnaires parce que ça marchait pas. Donc, je l'ai mesuré par un autre biais qui était un archivage des listes de guildes. En voyant un peu les références culturelles qui étaient mobilisées, quoi. Ouais.
Pour en revenir à la question de l'orientation politique, il y a Raphaël Koster qui fait sa thèse de socio-anthropologie. Enfin, je crois qu'il constate à peu près la même chose. Et en gros, ce que les gens lui disent en entretien, c'est que on n'est pas là dans un jeu vidéo pour parler des problèmes de la vie. Enfin, voilà. Il y a une sorte de, c'est pas un tabou, je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à parler de tabou, mais il y a une espèce de réticence à introduire dans le cercle magique entre guillemets.
C'est sujet à troll, enfin, c'est sujet,
ouais.
Il y a des bons godouines qui sont en
train. Voilà, c'est pas censé être un sujet de discussion dans un jeu vidéo.
Par contre, en étudiant des questions de, en étudiant ce qui s'échange sur les forums, on trouve parfois des discussions politiques, mais elles sont très rares, effectivement, parce que c'est des trucs, mais on en trouve quelques-unes. Alors c'est essentiellement, il faut définir ce qu'on appelle politique, parce que est-ce que c'est strictement en termes de parti, des discussions sur Sarkozy, on en trouvait souvent, enfin voilà, avec plutôt une hostilité à Sarkozy, mais après il y avait des dimensions politiques qui étaient peut-être moins visibles et moins traditionnelles. Qui était, il me semble que là où on le voyait, c'était des vrais débats politiques, c'était autour de la question de l'addiction. Et c'est-à-dire que le débat des joueurs arrivait sur une lecture idéologique de l'addiction. Certains parlaient de l'addiction comme d'une réalité psychologique, on va dire, ou psychopathologique, et d'autres en parlaient comme... ce que je veux dire, c'est que c'était politique dans le sens où il y avait la définition de ce que c'est qu'un individu, et de dire de quel droit on interdirait, ou de quel droit... une espèce de refus du contrôle médical, quoi. Voilà. Et donc, les choses apparaissaient là, mais elles n'étaient pas utilisées pour statistiquement. Ça, je l'ai plus utilisé dans l'organisation et la description des communautés, en essayant de comprendre qu'est-ce qui concernait le jeu et qu'est-ce qui concernait leur jeu. Et parfois, on voyait des choses politiques. Donc, parfois sur des choses politiques traditionnelles, enfin en termes de parti et d'actualité politique. Et parfois, il me semble que c'était plus visible sur les questions de vie personnelle et quelque part de revendiquer certains le en fait ce qui sortait souvent sur ces questions d'addiction c'était de dire enfin pour certains en gros j'ai une vie qui est enfin j'ai pas une vie de merde mais j'ai une vie un peu dure et je veux dire de quel droit on m'interdirait de faire ça quoi. Et il me semble que là c'est des choses politiques qui sont derrière mais qu'il faudrait creuser plus finement.
Est-ce qu'il y a une spécificité sur la construction de cette addiction, enfin si déjà il y en a une, hein, et si elle est reconnue, hein.
À quel niveau, du point de vue des joueurs,
hein. Oui. Comment finalement petit à petit ils s'engagent dans cette vie de virtuelle et comment ils en viennent à jouer 22 à 26 heures par en moyenne par semaine.
Dans les discours que j'avais, c'était en fait ce que j'ai essayé de repérer, c'était que il y avait une espèce de situation. Manuel, tu veux voir des trucs aussi là-dessus sur certains trucs que tu as utilisés,
mais juste 26 heures, attention, c'est la moyenne.
Ouais, c'est la moyenne.
Donc 22-26 heures, on n'est pas addict, on est un joueur normal de WoW.
Ah, pour se passer considéré comme normal.
Oui, mais ça dépend par qui. Je veux dire, dans cet univers-là, les joueurs eux-mêmes se considèrent. Si tu commences à définir ça, ça veut dire que tu dis que tous les joueurs de WoW sont addicts. Si tu places à 20. Ça veut dire, effectivement, par rapport au débat qu'il peut y avoir, c'est intéressant. C'est que si tu considères que 22-26 heures, c'est déjà de l'addiction, c'est déjà trop, ça veut dire qu'actuellement, tous les joueurs de WoW.
Pas forcément trop, mais ça veut dire qu'il y a une emprise sur la vie qui est importante. Trop ou pas, c'est pas à juger. Hein.
Mais pas pour eux. Pour eux, ça fait partie de la vie.
Pas plus que la télé.
Les débats, en fait, se situaient là. C'est-à-dire, en fait, ce qui était intéressant, c'est que les joueurs se mettaient en situation de définir ce que c'était l'addiction. Et finalement, ils produisaient des discours qui, à mon avis, ont la même valeur qu'on trouve en partie dans le discours scientifique. C'est-à-dire, c'est pas une affaire de quantité, c'est une affaire de perception. Alors, le débat, c'était. Et c'est le même débat qu'il y a chez les psychologues qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des propriétés objectives du truc des gens comme Thomas, ils vont défendre que oui, moi je suis absolument.
Les joueurs sont mal. Enfin, les psychologues sont malins parce que quand ils vont parler d'addiction, ils vont parler plutôt d'ados. On est sur une population.
Sachant que les ados sont les moins joueurs.
Donc évidemment, le fait qu'il y ait un discours politique du fait de quel droit on me l'interdit, on parle d'adultes en termes de bonne politique. Démocratique ou libéral, quel que soit le. Il n'y a pas vraiment de légitimité à leur interdire.
C'est pas sur l'interdiction, c'est en fait comment on peut avoir envie de jouer autant, en fait. C'est ça qui m'intéresse.
Le jeu t'oblige à ça, enfin, il est fait de façon à ce que tu sois obligé.
Ah, là, tu considères que c'est des propriétés objectives. Que c'est le jeu qui t'y pousse.
Non, moi j'en ai deux, mais peut-être on va. En changeant un peu de sujet, j'évoquais au début le travail sur les chambres d'enfants,
ouais.
Et le décodage des chambres d'enfants était en train de faire maintenant. Et est-ce qu'un travail similaire serait possible sur les lieux du jeu? Parce qu'on a vu quelques photos, et du coup je me demandais s'ils sont... Je les ai vus aussi ces photos des bureaux dans lesquels on joue là. Donc je me demandais quel est le lieu.
Ouais,
où est-ce qu'on joue, dans la chambre, dans le bureau, sachant que les lieux me paraissent déterminants, enfin les lieux, les lieux domestiques sont déterminants pour les formes du jeu. La console, c'est du salon, c'est important que ça soit au salon, enfin, en tout cas au début, peut-être c'est une propriété qui se fait. Donc, premier truc, est-ce qu'on pourrait faire une analyse du lieu et est-ce que ce que tu fais sur les chambres d'enfants, est-ce que ça serait transférable? Est-ce qu'il y a différents profils, là, pour le coup, aussi, cette fois-ci comme ça, micro-géographique de l'organisation de l'espace du jeu, première question. Et la deuxième, moi, ce que j'ai trouvé formidable dans le travail que tu nous as exposé, c'est le fait que la question du jeu soit pas évacuée, alors qu'en général, quand on parle de jeux vidéo, comme l'objet est indigne, socialement, on a tendance à ne garder que ce qui est brillant, et donc à évacuer précisément la dimension du jeu pour s'intéresser à ce qui est plus que du jeu dans le jeu vidéo. Bon, donc, ce que tu fais pas du tout. Mais sur la question du jeu, après, est-ce que dans ton approche, il y a un sens à poser la question de la spécificité du jeu vidéo? C'est-à-dire que là, dans ce que tu nous as présenté, et c'est à mon avis hyper important de voir qu'il y a des trajectoires ludiques qui sont les jeux enfantins, mais est-ce qu'il n'y a pas une rupture à un moment donné quand même sur cette continuité du jeu, à partir du moment où on se met à jouer avec une machine particulière qui est la machine informatique, et il y a des propriétés, et en plus le jeu de rôle, parenthèse là-dessus, le jeu de rôle historiquement comme forme du jeu vidéo, c'est une forme qui est hyper connectée à la machine de bureau et à l'apparition des micro-ordinateurs, et dans lesquels on joue, en tout cas dans les premiers jeux de rôle, c'est très flagrant, puis c'est des choses qui sont restées. Tu sais, on joue avec les tableaux de chiffres, on joue avec les stats, on joue avec la dimension.
Là, tu parles des jeux sur table.
Je parle des jeux.
Non,
des jeux de rôle sur ordinateur. Je pense à Ultima, tu vois, les premiers jeux de rôle sur Apple II et toute cette scène-là qui va être très, très importante dans les années 80. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les jeux de rôle soient hyper localisés pendant tout un moment. C'est vraiment les jeux domestiques dans le bureau, sur la machine de bureau. Et il y a une parenté monumentale entre ce qu'on fait sur la machine de bureau, saisir des feuilles de calcul Excel, et ce qu'on fait quand on joue, tu vois, parce qu'on joue avec ces stats que l'on augmente, quoi. Donc c'est comme une espèce d'érotisation de la machine de bureau. C'est une formule de Stallman, la bureautique, c'est l'érotique du bureau, tu vois. Et ben là, avec le jeu de rôle, c'est vraiment l'érotique du bureau, quoi. Le tableur Excel devient un truc sexy. Donc, t'as vraiment quelque chose d'hyper lié à la machine informatique, en particulier dans la forme jeu de rôle, avec des choses qui restent, puisque dans WoW, là, t'as raconté l'histoire du type qui regarde comment augmenter ses stats, quoi. Donc, est-ce qu'il y a, première question, est-ce que dans les lieux du jeu, il y a des choses à apprendre? Deuxième question, est-ce que ça a un sens de poser la question de la spécificité du jeu vidéo avec un ordinateur par rapport aux formes traditionnelles du jeu?
Alors sur la première question, c'est un élément que j'ai traité un peu, mais à partir des films que j'avais, des photos, et surtout les guildes eux-mêmes jouent souvent à montrer là où ils jouent. C'est de dire, mais ça se fait peut-être ailleurs dans d'autres types de forums, hein, où ils échangent, et dire, montrez votre photo de bureau. Donc après il y a une mise en scène, c'est pour ça que j'ai aussi un travail sur la mise en scène, comment on met en scène son bureau. Donc ça, il y a des choses intéressantes, et là c'est un élément par exemple, la configuration domestique est essentielle pour comprendre la pratique du jeu. Et notamment où le capital économique peut jouer. Et on le voyait, moi je le voyais très nettement chez les jeunes couples qui vivaient à Paris, c'est-à-dire sur les petits espaces, comment est-ce qu'on fait, et avec l'interférence des enfants, notamment dans le jeu. Parce qu'il faut voir ça. C'est-à-dire quand les bébés ou les jeunes enfants vont venir, ou que le père ou la mère a le bébé sur le. Et que tout d'un coup, dans la partie, on entend un bébé qui commence à balbutier. Avec aussi, ce qui était intéressant dans le cas d'un joueur que je décris, un profil de joueur, c'est un type qui est flic et qui garde en fait son gamin le soir. Et en fait, l'enfant connaît à peu près tous les gens de la guilde. Et régulièrement, il vient sur le TeamSpeak pour dire bonsoir, pour dire bonne nuit. Toute la communauté lui dit bonne nuit. Voilà. Donc, je veux dire, l'effet de la configuration de l'espace, elle est essentielle avec est-ce qu'on a une chambre ou pas, quand on a un bébé, est-ce que le bureau est dans la chambre à coucher ou pas. Donc ça, il y a des éléments vraiment essentiels qu'il faudrait creuser, mais mais que j'ai traité en essayant de comprendre parfois comment la pratique elle-même était configurée par des logiques externes, en fait. Mmh. C'est le truc classique qu'on a en jeu, en théorie du jeu, c'est-à-dire logique interne, logique externe. Mmh. Et effectivement, mais ça amènerait à une analyse du jeu où il faudrait travailler plus les questions de logique externe, qui est la configuration domestique. Mais il y a un ami qui est en train de faire un excellent travail, qui est Aymeric Brody, qui fait un travail sur le poker et le poker en ligne. Et il travaille beaucoup, mais enfin, il compare le poker sur table et le poker en ligne, et il essaie de montrer l'importance de l'espace domestique dans la pratique elle-même de l'élément. Alors après, sur la deuxième, en fait, moi, j'essaie de montrer... Alors, je ne suis pas du côté de la ludologie de type... il existerait quelque chose qu'on appellerait le jeu et qui serait comparable... Je me situe plutôt dans une perspective qui est celle que défend, on est toujours obligé hein, quand on est un directeur de thèse, mais que défend en fait Brougère et d'autres, c'est-à-dire en gros, bon, il y a les théories du jeu, il y a les poids lourds, il y a Henriot, Huizinga, Kaiwa, qui vont nous proposer des cadres, et quelque part ces cadres, ils vont les utiliser pour n'importe quel type d'activité, ce que moi j'ai fait en partie, c'est d'utiliser ce qu'on dit du jeu, mais à ceci près que... dans la perspective de Brougère, qui est plutôt de celle de Wittgenstein, c'est-à-dire je pense pas que, enfin, que en gros, derrière le mot jeu se cachent des choses extrêmement diverses, mais qui ont un point commun, et il faut trouver quel est ce point commun. Voilà. Il y a un air de famille entre une partie de bridge dans une maison de retraite et un enfant qui joue à la poupée, et des joueurs de jeux vidéo. Les joueurs, moi je trouve que les études qu'on voit sur le jeu vidéo, elles sont parfois. Enfin, c'est des choix épistémologiques, quelque part. C'est-à-dire qu'elles sont, je pense, parfois aveugles à la dimension ludique qui caractérise les autres activités, et elles trouvent des propriétés aux jeux vidéo qu'elles pensent être des propriétés spécifiques aux jeux vidéo. Et je pense que c'est par un manque de connaissance, parfois, de ce qui a été écrit sur le jeu de rôle, de ce qui a été écrit sur qu'est-ce que c'est qu'une partie de belote, sur le bridge, sur la pétanque. Alors, ça ne veut pas dire que je dis que tout ça, c'est la même chose. C'est de dire qu'est-ce que c'est qui est continu là-dedans. Et alors, moi, ce qui m'intéresse dans la continuité, c'est d'utiliser Goffman. C'est de dire qu'en fait, la continuité, c'est la dimension du second degré. C'est qu'il y a bien ça qui fait que, plus que le cercle magique de Huizinga auquel je... Je crois que c'est plus un modèle un peu mythologique, mais...
Qu'est-ce que tu veux dire par le second degré, par le fait de s'inventer que... un personnage second?
C'est, en gros, c'est ce que dit Valéria, je vais dire son vrai nom, Sonia, c'est de dire que... Enfin, la thèse de Goffman, c'est-à-dire que ce que je fais là, c'est une signification différente. Que... C'est le combat des l'autre, quoi.
Si c'était si important que ça, le second degré...
Mais pas au sens où c'est de la distance orale.
Il y a des formes du jeu dans lesquelles il n'y a pas de... Parce que tu as des formes du jeu, y compris en ligne, dans lesquelles finalement la question du second degré disparaît. Si tu joues à un FPS...
un quoi?
Un first-person shooter en ligne, à Counter-Strike, très très vite, finalement, le fait d'être terroriste ou contre-terroriste, tu vois, c'est un... C'est les bleus contre les rouges, ça devient des fonctions ludiques qu'on n'investit pas forcément.
Mais là, je ne la prends pas second degré.
Ça ferait une différence, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Est-ce que dans le jeu de rôle, il y a autant de rôles que ça?
Mais je pense qu'il faut s'attendre sur l'idée de second degré, c'est-à-dire, c'est vraiment l'idée purement goffmanienne qu'il emprunte en fait à Betson, c'est-à-dire la modalisation d'une activité qui prend un sens extrêmement différent. Et c'est, enfin, en gros, le combat des loutres, c'est-à-dire... on fait exactement quelque chose qui pourrait avoir un sens premier, mais le sens premier disparaît au niveau d'un sens second, et il faut produire des signes pour le comprendre. C'est ce que dit exactement Valéria, c'est-à-dire insulter quelqu'un, c'est apprendre à jouer, c'est apprendre à insulter pour qu'il comprenne bien que l'insulte fait partie du jeu. Voilà. Mais et voilà, et donc pour terminer, la continuité, donc je la cherche au moins dans cette notion. De transformation du cadre, en fait. Voilà. Et je la cherche aussi dans la question de la fantaisie. C'est-à-dire que je suis convaincu, et on travaille là-dessus avec Antoine, et notamment quand on travaille sur le jouet, c'est de comprendre les processus de circulation entre les objets. Et que peut-être pour comprendre quelqu'un qui joue à World of Warcraft, il faut peut-être comprendre, faut peut-être s'intéresser au fait qu'il jouait à G.I. Joe quand il était petit, et qu'il y a peut-être quelque chose de... Ouais.
Justement sur cette question de la culture de la fantaisie, est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir une culture fantastique à la base qui va amener à jouer à ce genre de jeu, c'est pas aussi un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'à partir de World of Warcraft, on peut rayonner
Ouais, non, c'est ça, ouais. En fait, quand je dis circulation, c'est dans tous les sens. Hein, c'est-à-dire comment World of Warcraft va amener à. Par exemple, j'ai des joueurs, c'est pour ça que je m'intéressais aux produits dérivés, c'est-à-dire comment des gens vont jouer à World of Warcraft et vont lire Le Chef de la Rébellion, le livre écrit avec les pieds par un des game designers, je ne sais plus qui c'est. Je vous invite à lire, non, c'est pas le pire, hein, j'avais lu les romans Warhammer qui sont adaptés. Mais ça nous intéresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est des cas de circulation, c'est-à-dire WoW va développer. Donc, on peut le lire comme des stratégies marketing, hein, ce qui est dans l'esprit, je pense, clair. On peut le voir aussi comme des effets d'exhausteur de jeu, c'est-à-dire des façons de visiter le jeu différemment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va amener à lire World of Warcraft, le chef de la rébellion. Et à un moment, j'analyse un forum où comment, en fait, le type dit « Ah, ben, j'ai lu ça, il parlait de tel personnage. » Et un type va dire « Mais ça, c'est de la merde, il faut que tu lises... l'original, Tolkien, enfin là je vais vite, mais ou que tu lises Dan Simmons, il faut que tu lises, si tu veux lire un truc intéressant. Voilà. Et donc on voit les circulations se font. Ouais.
Mais alors est-ce que ça ne crée pas des liens entre différents éléments de culture qui à la base sont épars, par exemple Metallica,
ça ouais, ouais.
Et aussi une autre question, dans la thèse, il y a justement la liste des. Écoutez, je crois qu'il y a Jean-Jacques Goldman dedans.
Ouais.
En plus, pas en dernier, quoi. Devant IAM.
Devant IAM, je ne rappelle plus. Ouais.
C'est vraiment ça. Et pourquoi est-ce que ça sélectionne en fait certains éléments de culture qui sont, qui sont différentes pour les lier ça m'étonne. Pourquoi est-ce que Jean-Jacques Goldman n'est pas considéré comme faisant partie de la culture fantasy du coup,
Parce que j'ai pas réussi à établir le lien en fait.
Est-ce que c'est les filles qui
écoutent ? Il faudrait que je le croise, il faudrait que je vérifie. Mais par contre, il faudrait voir le taux de réponse parce que moi, ce qui m'a surpris, parce que j'étais parti sur une question ouverte en me disant je vais me casser les dents, je vais me retrouver avec une diversité. Et en fait, ce qui est quand même apparu, c'est une homogénéité très forte en haut, enfin en gros. Et après, j'ai des logiques qui partent. Et encore, j'ai mis que les 25 premiers sur le tableau, je crois. Mais comment est-ce que je rate ? Non, là, je ne saurais pas. En fait, sur les plus gros, c'était relativement facile. Après, il faudrait travailler, voir s'il y a un lien entre Jean-Jacques Goldman et la fantasy. Mais a priori, mais là, ça supposerait une analyse de corpus, en fait.
Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit Metallica, parce que c'est ce qu'ils avaient mis dans la voiture quand je me suis fait covoiturer à la dernière IRL des trolls. Hein.
D'accord.
Pour Halloween, je suis allé en Belgique, sur mon vieux terrain, là, dans la voiture, et ils ont mis Metallica.
D'accord, ouais. Ouais.
C'est drôle. Sinon, j'aurais pas pensé du tout. Hein. Ouais, effectivement, ouais. Moi, je pensais que c'était la génération visiblement.
Ouais, ouais, jeune, et là. Ça, ouais. Même Manowar, Manowar qui est apparu, qui est un des groupes qui manifestait, parce que je me rappelle des trucs sur le jeu de rôle où Manowar était utilisé comme musique d'ambiance. Effectivement, la relation entre Manowar et le jeu de rôle sur table, hein, je parle. Quand je dis jeu de rôle, c'est souvent sur table. Hein. On utilisait Manowar comme. Et quand on regardait les pochettes, on voit un barbare.
Ouais, mais pour le coup, Manowar, il puise vraiment directement.
Il puisait, ouais. Donc il y a des liens qui se font très facilement.
Manowar, il puise, mais en troisième position, il y a Queen.
Ouais. Ah,
on ne peut pas dire que Queen, et pourtant, il y a quasiment.
Il y a Highlander, il y a Highlander, il y a quand même. Kind of Magic, ouais.
Antoine, t'avais une
petite... Oui, alors peut-être pour revenir sur deux, trois trucs. Est-ce qu'au fond, quand on travaille, au lieu de définir une spécificité du jeu vidéo ou d'amener à définir le jeu vidéo, il ne permet pas en fait, de définir la spécificité de certains jeux vidéo qui seraient les jeux en ligne sur lesquels tu travailles et en disant, par exemple, qu'ils ont une façon particulière, un rapport particulier à l'attention, à la façon d'accaparer l'attention ou au contraire de ne pas l'accaparer, de faire qu'on puisse faire d'autres choses à côté et qui en fait montrent que ces jeux vidéo-là ont comme une de leurs caractéristiques, partagent cette caractéristique qu'on puisse faire autre chose à côté avec la musique qu'on écoute, avec la télévision qu'on regarde, c'est-à-dire un certain rapport à la temporalité. Et à ce moment-là, ça permettrait d'aboutir à une certaine typologie des jeux vidéo selon le rapport à la temporalité. On aurait... Pour faire vite, je sais pas, à un extrême, les Tamagotchi qu'il faut nourrir une fois par jour, c'est-à-dire de façon ponctuelle. À l'autre extrême, des jeux sur lesquels on est connecté sur des longues durées, mais sans que ça signifie qu'on est à fond derrière son écran.
Ça, c'est important.
Et très, très. Avec tous les doigts actifs à chaque seconde, etc. Et puis, le gros des jeux vidéo qui nécessitent une certaine attention pour ne pas perdre dans la partie, ou en tout cas, avec des tas de nuances, quoi. Mais en tout cas, qui sont des jeux dans lesquels, quand on y joue, on ne fait que ça, ou en tout cas, il y a une sorte de bulle, pour le coup, et d'unité entre le joueur et le jeu, qui existe ni dans le cas de Yamaguchi, ni dans le cas de...
Sachant qu'il faudrait regarder, dans ce cas-là, si tu vas sur les temporalités, il faut regarder de très près, il faut regarder les rythmicités, c'est-à-dire que les jeux qui sont très prenants, et tu vas penser tout de suite aux jeux de console, enfin moi je pense tout de suite aux jeux de console, il y a des entr'actes. Il y a des moments où, entre les sessions...
Il y a une invention d'arcade, ça.
Donc,
t'es en puissance.
Est-ce qu'il y a la possibilité de faire pause, ce que t'as pas dans World of Warcraft.
Et ça, c'est vrai. Donc du coup, ça devient...
C'est oui. Mais c'est une entrée, enfin en gros ce serait de faire une espèce d'économie de l'attention appliquée aux jeux vidéo.
Parce que tous les. Parce que moi je pense à un auteur qui s'appelle Piet, je sais pas si tu connais, Albert Piet, qui est un anthropologue, qui écrit des trucs très. Là il a publié récemment deux bouquins très très bien. Et sa thèse, si tu veux, c'est que l'humain, comme c'est un anthropologue, l'humain c'est. Et moi, et ce qu'il définit essentiellement, c'est que c'est sa capacité à l'inattention. Et puis il compare avec les singes, le fait que les singes non, les animaux non, quand ils font un truc, ils font un truc. Et que l'humain, c'est celui qui est capable de faire un truc, mais. Et ça rejoint le truc de Goffman, le côté un peu le recul et la capacité à modéliser. Il travaille beaucoup sur l'attention et lui, il dit toute activité humaine, il y a de l'inattention dedans. Et tu vas pouvoir, il y a un peu d'inattention, mais donc et après il dessine des diagrammes très drôles sur quand tu conduis tes enfants en voiture, etc. et donc ça vaut le coup de jeter un œil si tu t'intéresses.
Moi j'ai entendu parler de chiffres sur WoW, mais je connais pas la source. Hein, où il a été dit que ils ont, alors est-ce que c'est bizarre qu'il a trouvé, je ne sais pas, que les filles jouaient moins souvent, moins longtemps, enfin en temps de, en durée de jeu, mais qu'en fait quand elles jouaient, elles jouaient.
Ouais, mais et moi les chiffres que j'ai montrent qu'en fait en termes de temps de jeu, il n'y a strictement aucune différence. T'as une différence si tu veux qui apparaît en termes de courbe, mais qui est pas significative.
Bah là, si tu veux, c'était qu'en fait quand elles étaient sur le jeu, elles étaient sur le jeu, elles n'avaient pas autre chose à côté. Alors que les garçons, ils avaient plus de temps de jeu, mais parce que il y avait des fois où ils faisaient autre chose à côté.
Ouais, en fait, la question c'est de savoir si on t'a déclaré le temps de connexion ou le temps de jeu réel.
Il y avait une différence entre le temps de jeu et temps de connexion.
L'appareil, sur quoi on travaille, c'est-à-dire comment on sait qu'elle fournit à côté. Et puis qu'est-ce que c'est faire quelque chose à côté ? Parce que tu as aussi des femmes au foyer, tu as aussi des personnes qui gardent des gamins. Si le gamin il est dans sa chambre, est-ce qu'elle est en train de faire quelque chose à côté ? En fait, elle va dire non, je fais rien à côté, mais en fait, si.
Moi, je voulais revenir sur le troisième niveau.
Excusez-moi. Oui, peut-être rapidement pour répondre à propos de la question de temporalité, nuancée et en même temps. Il y a quand même quelque chose de propre, il me semble, dans les vidéos en ligne, qui est qu'on est, disons, une présence par rapport à d'autres présences, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui jouent, et que rien que être en ligne, c'est signaler une présence, c'est être en mode on par rapport à d'autres lumières qui sont allumées ou éteintes, quoi. Ou bien en on ou bien en off. Et du coup, il y a un lien entre la temporalité et les événements, les autres joueurs éventuels comme événements, qui n'est pas le même que dans un jeu. Voilà, que dans un jeu où les événements sont entièrement mécaniques, c'est-à-dire des événements où il faut qu'on réponde tout de suite parce que sinon on se fait, se fait attaquer. Mais oui, d'accord, sur la rythmicité et sur le fait que. Il y a des moments où on est en danger, il y a des moments où on n'est pas dans
on verrait là pour le coup des positions, des positions corporelles, et peut-être des organisations des espaces de jeu.
Là, tu fais la différence entre être en interaction avec d'autres personnes ou être en interaction avec des automatismes, avec des automates. Et c'est effectivement, ça. C'est pas la même chose. Ouais.
Et ça crée aussi un rapport au temps qui n'est pas le même.
Mais moi je voulais revenir sur le troisième niveau, tu nous as parlé un peu de méta-jeu. Est-ce que tu as des données sur le temps de méta-jeu ? Pareil, quand tu nous dis 20-26 heures par semaine, est-ce que ça comprend le
temps ? Non, là c'est de collection, enfin c'est collection et après je demandais sur la pratique en fait, sur la pratique effective. Parce qu'en fait j'étais toujours un peu surpris des temps de jeu, mais si on regarde effectivement à... c'est un temps de connexion, enfin parfois on confond temps de connexion et temps de jeu réel. Donc moi j'avais différencié le temps, j'avais demandé deux estimations en fait.
Le mec qui sur ces tableaux l'optimisation là, c'est qu'on s'est stabilisé dans le
non, c'est en jeu. Et ça je l'ai pas comptabilisé parce que j'arrivais pas à voir comment je pouvais comptabiliser. Sinon encore avec des estimations, mais déjà demander des estimations, on sait les erreurs qu'il y a, enfin entre ceux qui vont minorer ou qui vont au contraire, parce que c'est aussi une façon de se catégoriser déjà. Hein. Et de faire plaisir plus ou moins aux sociologues, j'imagine, ou de l'emmerder. mais après, sur les temps de... En plus, c'est tellement diffus, parce que certains te disent font ça au boulot, par exemple, ça je ne l'ai pas évoqué, mais l'importance de réfléchir à sa partie, préparer sa partie, poster un truc sur un forum depuis le boulot, et coup, ça, c'est pas quantifiable. Sinon, en quali, quoi. Enfin, on peut l'avoir.
C'était aussi la suite de ma question, comme on a parlé un peu des espaces où avaient lieu les pratiques. Est-ce que le méta-jeu a lieu aux mêmes endroits
Ouais, ou non, non,
tu
non,
commences
non,
à y répondre.
Ouais, ouais, dans ce que j'ai, non, non, c'est très différent. Mais justement, en fait, j'ai abandonné l'idée d'une quantification du métajeu pour toutes ces raisons-là, c'est-à-dire c'est des lieux différents. En fait, j'ai essayé de le qualifier du point de vue de l'importance dans le discours des joueurs, c'est-à-dire leur demander est-ce qu'ils mettaient ça au même plan que le jeu, l'activité, je leur demandais de classer, en fait, quelque part. C'est comme ça que je mesurais son importance. Et je ne la mesurais pas objectivement en termes de volume horaire. Quoi, voilà.
Ouais.
Non, mais j'avais deux remarques.
Ah, vas-y, vas-y.
Non, mais vas-y.
Bon, j'ai une rapide. Est-ce que, à ton avis, c'est très différent ce que tu as étudié WoW et DAOC?
Ouais.
Et si tu faisais l'étude d'autres jeux vidéo, finalement, est-ce qu'il y a une culture. C'est celle-là que.
Enfin, moi.
Est-ce qu'il y a une culture archi spécifique à ce moment-là, au jeu de rôle en ligne et puis à ceux-là en particulier, peut-être, j'en sais rien.
Ouais, ouais.
Et est-ce que si tu étudiais finalement les pratiques du jeu vidéo en général, ouais, ouais, en prenant d'autres régimes, tu aurais des choses très très différentes? Ou est-ce qu'on retrouverait.
Je sais pas. En fait, je pourrais te répondre, mais pas sur. Mais pas sur l'autre jeu vidéo, en fait. Je pourrais dire qu'il y a quelque chose de commun, et je l'ai évoqué plusieurs fois, avec un petit travail que j'avais fait en licence, qui était sur les joueurs de Warhammer, et en montrant le temps d'investissement des joueurs de Warhammer, et notamment, c'est là où j'avais commencé à travailler aussi ces questions de jeu et de méta-jeu, voyant que Warhammer, mais bon, il fonctionnait là-dessus, mais supposé, c'est-à-dire un temps de peinture, de travail des armées, qui n'est peut-être pas à 22 heures, mais qui était, je ne sais plus, dans mon terrain, qui devait être un truc comme 10-15 heures, ce qui est quand même considérable, hein, le temps de peinture, de tout ça, de fabrication de décors, voilà. Et ça, j'avais pu regarder un peu, quand je demandais aux joueurs ce qu'ils faisaient le soir, et donc le temps de jeu était sensiblement le même. Non, il était largement en dessous du méta-jeu, c'est-à-dire c'est le temps de préparation et de. Et donc là, il me semble qu'il y a quelque chose de comparable. Après, sur d'autres jeux vidéo, c'est l'argument sur la question de la temporalité, mais c'est un élément que j'ai pas tellement travaillé. Mais effectivement, il y a une temporalité spécifique, il y a une présence distribuée. Enfin, c'est le truc de Terkel qui sait l'analyse bien, la présence distribuée, c'est-à-dire ce qui caractérise ces jeux-là, c'est une capacité peut-être par rapport à d'autres activités ludiques à avoir une présence flottante, à la distribuer à tel moment, à la rendre. Mais il faudrait la comparer, je sais pas, avec d'autres jeux. Parce qu'effectivement, si on pense au FPS, on va se dire, il y a une espèce de... Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on met dans le jeu vidéo? Parce que moi, j'ai tendance parce que quand on parle jeu vidéo, la mode aujourd'hui, c'est, genre, j'y contribue, c'est de parler de WoW. Mais je veux dire, il ne faut pas oublier, moi, ce qui m'intéresse, c'est Adibou aussi. C'est-à-dire, et pourtant, c'est un jeu vidéo. Non, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est dans la littérature sur le jeu vidéo, c'est l'évacuation du jeu vidéo des enfants. Alors qu'Adibou, Lapin Malin, tous ces trucs-là, c'est des grosses ventes, hein. Et en fait, dans la littérature sur le jeu vidéo, on va parler des ados, des adultes, entre guillemets, une espèce de jeu sérieux. Et je pense que c'est une façon de ne pas comparer avec le jeu des enfants.
C'est encore l'évacuation du ludique.
Ouais, c'est de dire. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai un discours un peu. Je me rappelle d'un joueur qui venait, je lui disais, enfin, en gros, tu. Ben voilà, c'était un des traders, je disais, mais en gros, tu joues à la marchande, quoi. Le type le prenait mal, je veux dire, quand je dis le jeu des invisibles, comme t'es petit, tu joues contre des ennemis imaginaires. J'ai, il y avait une espèce de non, je suis pas. Alors, moi, je pense qu'il y a une. Enfin, ça répond sur la question, je pense qu'il y a une continuité qu'il faut essayer de traquer, quoi. Voilà. Et que du coup, on vire Adibou des études, alors que Adibou est essentiel. Et ça, c'est un domaine que j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé sur l'utilisation du jeu vidéo en ludothèque auprès des petits. Et ça m'intéressait de voir comment les enfants jouaient au jeu, avec leur capacité de distribuer aussi leur présence, hein, c'est-à-dire, mais c'est lié aussi à la configuration de la ludothèque, c'est-à-dire il y a des copains qui sont là, donc on arrête de jouer, on va discuter, on va s'échanger un truc, on va surtout chercher à tricher pour aller plus vite, des choses comme ça, liées à la contrainte du temps. Mais la continuité est liée, moi je pense, entre Adibou et World of Warcraft, c'est quelque chose de constant
des jeux, ouais.
Mais je pense que les... Ouais.
Est-ce que tu as vu des rapports entre la compétition entre joueurs, entre guildes, et les rapports à l'investissement en temps ou l'addiction selon le jeu?
C'est-à-dire,
est-ce que finalement la compétitivité entre deux guildes vont faire que ça va augmenter le temps d'investissement dans un jeu vidéo, le temps qu'on va passer sur un jeu vidéo? Est-ce qu'il y a des rivalités qui ont émergé entre les joueurs et entre les guildes précisément?
Alors, de tête, je crois que j'avais croisé. Je voulais voir s'il y avait des variations entre l'investissement, le temps de jeu déclaré et le type de pratique. Et en fait, il y avait sensiblement les joueurs qui étaient très agoniques, c'est-à-dire très centrés sur la compétition contre d'autres guildes, ou ce qu'ils appellent sur Dark Age, ils appellent ça le 8-8, c'est-à-dire un endroit où ils se mettent et c'est du 8 contre 8. Et, en plus, c'est eux qui se sont mis d'accord, hein, pour ça. C'est-à-dire que le jeu interdit pas. Mais eux, ils cherchaient. En fait, ils étaient à la recherche du fair play. Mais c'est toute l'histoire. Là aussi, hein, quand tu. En fait, c'est de comprendre l'histoire du jeu. C'est-à-dire que. En fait, on arrive à. Eux, ils développent un jeu. Le jeu moderne. Enfin, le jeu tel qu'on connaît dans sa modernité. C'est-à-dire un jeu réglé. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est le fair play. Mm-hmm. Mais, et donc, quand je regardais ces joueurs-là, ce que j'ai appelé les joueurs fair play au sens historique, hein, c'est-à-dire l'équité des chances et tout ça, avec parfois un certain esprit, et par exemple les joueurs roleplay, j'avais en termes d'investissement aucune différence. Alors que le roleplay, il peut y avoir une compétition entre une meilleure guilde, et la France peut-être pourrait donner des éléments plus pointus là-dessus, mais en tout cas, en termes strictement statistiques, tu n'avais pas de différence en termes d'investissement. Un peu plus de gros joueurs du côté des fair play, du côté de ceux qui adoraient l'exploration. Non, là, j'ai pas vu de relation avec
eux. Ok, d'accord. Merci.
En rapport avec ce qui vient de dire là, sur les, la différence entre les jeux vidéo, pas les MMORPG et les jeux vidéo pas en ligne, pas multijoueurs, etc. Est-ce que dans les communautés, sur les forums, tout ça, est-ce qu'on sent une sorte de ou de rejet ou de sentiment de rejet de la part des autres joueurs, justement des joueurs qui ne jouent pas au MMORPG ou vis-à-vis des jeux, disons, jeux vidéo traditionnels.
Non, dans ce que j'avais pu observer, il y avait plutôt une espèce de pareil, de circulation, c'est-à-dire. C'est un lieu, je crois que c'est très infocom de dire ça, un lieu de médiation, c'est-à-dire de débats où on conseille des jeux, on envoie sur d'autres jeux, on dit ça c'est génial, ou des gens qui font des pauses en disant ouais, je joue plus qu'à ça maintenant. Je l'avais vu pour le premier Mass Effect, je crois, où des joueurs à une communauté, ils étaient tous mis à Mass Effect, ils avaient arrêté de jouer, ils disaient on fait une pause, on joue, et puis après on revient. Ce qu'il faut voir aussi, c'est les parce qu'on donne un univers où il y a une espèce de continuité là-dedans. Et ce qu'il faut voir au niveau individuel, c'est les ruptures, c'est-à-dire les gens qui arrêtent de jouer, qui reprennent, qui disparaissent parce qu'ils sont amoureux, qui reviennent parce qu'ils ne le sont plus, ou parce que leur copine joue, ou parce qu'ils ont trouvé un mode de régulation dans leur vie à deux. Donc après, non, il n'y a pas de sentiment, enfin c'est plutôt... plutôt perméable, quoi, très perméable avec les autres trucs. L'hostilité que j'avais ressentie par rapport aux autres pratiques culturelles, c'était essentiellement à la télévision. C'est-à-dire un regard très critique sur la télévision, mais qui était lié au fait que la télévision, généralement, produit des reportages édifiants sur leurs pratiques. Donc moi, ce que j'avais repéré, c'était ça. C'était, en fait, sur l'hostilité aux autres pratiques. J'avais même, je montre quelques forums aussi où il y a des tentatives, c'était sur des questions d'éducation, c'est-à-dire quand la culture légitime arrive. C'est-à-dire que quelqu'un donne une citation qui est plus liée avec la fantaisie. Alors, c'était pas Goldman, mais je pense pas que Goldman soit du côté de la légitimité. Mais je sais plus, c'était... sur un, je ne sais plus, un poète, il faudrait que je retrouve, je sais pas si c'était dans la thèse, ou un écrivain, je pense que c'est pas sur Gide, voilà, quelqu'un qui parle de Gide, à une communauté dont je pense une grande partie ne connaissait pas. Donc il y avait des effets comme ça, il n'y avait pas des effets d'hostilité, comme on pourrait penser à haute culture, basse culture, en disant ça n'a rien à faire ici. Au contraire, il y avait plutôt la seule hostilité ou les rapports de par rapport à d'autres pratiques culturelles, c'était, enfin, c'est même pas une pratique culturelle, mais par rapport à la télévision, et au journalisme, en fait, enfin, aux journaux télé, donc souvent en lien avec l'addiction, mais pas seulement.
Je suis un peu perplexe, parce que tu donnes l'impression que dans ton échantillon, il n'y a que des joueurs qui jouent beaucoup.
C'est un effet de.
Ouais, alors c'est sans doute un effet de discours. Donc j'imagine qu'il y a aussi des joueurs occasionnels. Et en fait, est-ce que eux nous apprennent des choses intéressantes sur la pratique du jeu vidéo? Parce que fait, l'essentiel du discours repose plutôt sur le méta-jeu, etc., les relations IRL.
Ouais.
Alors qu'est-ce que eux ont à nous apprendre sur.
Alors, les très casual, ils sont quand même pas très présents. Il y a un portrait que je donne intéressant d'un type qui joue moins de 7 heures, je crois, même pas.
Par semaine ou par mois?
Par semaine, ouais. Mais qui même pas 7 heures, je pense qu'il a moins de 5 heures. Alors lui, c'est un père de famille, en fait, qui joue parce que son fils joue, en fait. Il est arrivé un peu pour surveiller. Des fois, il se fait passer pour son fils, donc c'est un peu délicat. Il faut que je revoie, mais en fait, tu as une moyenne avec un écart type qui n'est pas si considérable que ça. Donc, tu as quand même un gros noyau. Donc, ce que les casuals révèlent, moi, que j'ai pu observer, c'est généralement des débutants. C'est-à-dire des gens qui sont sur des tout petits, sur une découverte du jeu. C'est ceux que j'ai croisés. Après, quelqu'un qui maintient un niveau de jeu très faible sur du long terme, j'en ai quasiment pas. Mmh.
Ouais. Donc, ça confirme ce qu'on sait déjà sur les MMO, sur le power leveling, je sais plus quoi. Mais du coup, ça indique quand même qu'il y a sans doute un besoin de mener ce type de travaux, comme les tiens, mais vraiment sur les jeux hors ligne. Parce que c'est là qu'on va retrouver des joueurs beaucoup plus, sans doute des joueurs beaucoup plus occasionnels et qui jouent de manière sans doute très différente.
Mais moi, je renvoie à l'étude de Frédéric Dagez qui a travaillé sur ces questions-là, qui lui a fait une étude sur les joueurs de Free Cell.
Ouais. Mmh. Ouais.
Et je veux dire, là, les joueurs de Free Cell sont... Toi, t'avais travaillé ces questions-là au boulot, toi, non aussi.
Quoi ? Si, si, moi, j'ai fait des choses qui seraient bien à articuler, mais qui demanderaient... déjà d'expliquer ce que c'est. Parce que...
Ah ouais. Après, je suis d'accord avec toi, travailler sur les joueurs très occasionnels, on a peu de choses.
World of Warcraft, pour le reste de la population.
Et mais je dis, moi, là où on l'a moins, c'est sur le jeu des enfants, qui sont souvent sur des temps de jeu très faibles. Les jeux des enfants.
Ouais, les jeux des enfants. Ouais, mais justement, parce qu'on définit souvent le joueur occasionnel comme, par rapport au temps qui passe sur un jeu, on peut jouer pas longtemps tout en se considérant comme un joueur. Qui joue beaucoup, enfin un joueur chevronné. Oh,
c'est ça, on retombe dans la question des temporalités des rythmes, effectivement, parce que les jeux web qui se développent aujourd'hui, qui ressemblent beaucoup, notamment sur Facebook, là, qui ressemblent en termes de structure à ce que j'ai étudié depuis le début des années 2000, et ben, c'est des jeux qui, où tu vas jouer très peu de temps, mais tous les jours, régulière, qui tend à être quotidienne, et donc c'est peu de temps, mais en même temps, en termes de préoccupations, c'est présent sur des vraiment sur
c'est
la durée,
symbiotique
quoi.
En plus pour reprendre ton terme, c'est à dire que ça va s'immiscer dans d'autres temps.
Moi, l'année dernière, j'ai fait des entretiens avec des gens qui jouaient sur internet pendant leur pause au travail. Alors là, c'est le stade ultime du symbiotisme.
C'est pour ça que
ils arrivent à jouer pendant toute leur vie par des petites tranches ça et à construire une continuité de leur activité.
C'est pour ça que la thèse du quelque part du cercle magique, elle est ici, parce que effectivement, tu vois l'insertion des choses. Je veux dire, c'est d'autant plus compliqué avec les smartphones et tu vas avoir.
Jules dit ça. C'est l'argument contre Kaiwa et Musinga et contre le cercle magique, cette dimension symbiotique. Regardez, c'est immiscé. Moi, j'ai l'impression quand même, quand on joue, on sait qu'on joue. Ouais. Même si c'est des cercles magiques, c'est quand même des temps de suspension. Donc, je crois pas que le. C'est pas parce que ça s'immisce finalement que la frontière jeu-non-jeu disparaît.
Oui, bien sûr, c'est vrai que le critère temps de jeu, il faut voir de quel jeu on parle.
Ouais, il est ambigu.
L'arrivée de la Wii dans pas mal de foyers, ça,
ça peut être combien de fois.
Par exemple, les soirées familiales où on sortait de Monopoly, ça a pu être remplacé par. Bullying sur la Wii, quoi. Et les gens, je sais pas
si. À ceci près, il faudrait voir la réalité des pratiques.
Ouais, voilà. Faut se méfier
la fameuse console la plus vendue, la moins jouée.
C'est pas la Wii.
Là, récemment, j'avais bossé sur.
Oui, non, mais c'est sur des masses. On est à combien 140 millions.
Il y a des foyers qui se considèrent un joueur de vidéo, ils sortent la Wii une fois par mois.
Voilà, mais ils vont quand même se considérer, ils vont quand même se considérer comme joueurs. Parce que j'ai l'impression que finalement on peut opposer assez facilement les joueurs de MMO qui vont être, on va dire, des joueurs, j'aime pas hardcore gamer, parce que pour moi ça veut rien dire du tout. Je sais pas comment on peut dire ça en français, donc des joueurs chevronnés. Et puis les joueurs hors ligne qui seraient plutôt des joueurs occasionnels. Parce que de fait, joueurs hors ligne, c'est souvent des jeux où on peut s'arrêter, où on joue qu'une demi-heure. Et puis,
il y a aussi des hardcore gamers hors ligne.
Non, mais les éléments qui peuvent nous aider, je pense, à trancher.
Il y a des jeux en ligne qui sont des casuals. Ouais. Ouais. C'est quand même.
C'est pas la distinction.
Mais je pense que c'est une question de gestion de temps. C'est-à-dire que, quelque part, même si j'ai pris toutes les prudences, c'est qu'on peut imaginer que le jeu se définirait comme une pratique culturelle, comme la lecture. Et que en fait, en cherchant nécessairement la diversité, en disant il y a une propriété à ce jeu-là, il y a une propriété à ce jeu-là, on ne voit pas justement la continuité. Et l'idée qu'on a dans d'autres pratiques culturelles, des lecteurs qui vont lire que de la SF et de façon très dense tous les soirs, d'autres qui vont lire dans le train. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, on se pose des questions qui sont des questions qui ne sont pas spécifiques au jeu, qui sont plutôt... On le considère comme une pratique culturelle, mais le problème c'est que le jeu il est pris dans des discours aussi très naturalisants, c'est-à-dire qu'on le voit comme... en gros il est à prendre comme une activité culturelle qui a des formes différentes, avec des corpus différents, et qu'elle est gérée de façon très différente, et plutôt qu'après justement des caractères... Enfin, quelque part de ne pas oublier de le traiter comme une activité sociale comme les autres, c'est-à-dire entre quelqu'un qui va lire dans le train parce qu'il prend les transports en commun, il va jouer sur son téléphone portable... quelqu'un qui va être passionné, je sais pas, par Proust et qui va se mettre à lire Proust à un moment.
J'ai l'impression que sur cette question-là, c'est-à-dire, évidemment, on peut se dire à chaque fois, sur chacun des dispositifs comme ça, instrumenter des loisirs, le livre, le cinématographe, le jeu vidéo, ça fournit des formes d'expérience qui sont instrumentées à travers un dispositif technique. Ces formes d'expérience, elles sont très différentes, celles du cinéma, celles du jeu, celles de la télévision, avec justement la frontière qui est faite. J'ai quand même l'impression que du côté des jeux vidéo, si on regarde comme ça les états dans lesquels ça nous plonge, appelons ça l'état ludique, l'état livresque, l'état filmique, ils sont beaucoup plus divers. J'ai l'impression que c'est un médium, si tu veux, qui reste quand même beaucoup plus décousu que le cinéma, par exemple, où il y a le grand régime de la salle de cinéma, il y a aussi le DVD avec la vision segmentée, etc. Mais il y a quand même une centralité de l'état filmique dans la salle de cinéma et du côté du jeu vidéo.
Sauf qu'il y a le streaming maintenant.
Voilà, il y a plein de nouvelles choses, mais que du côté du jeu vidéo, on a quand même des choses beaucoup plus finalement disparates au cours de l'histoire avec des lieux très très différents. Enfin, tu vois, l'université des années 60, les micro-ordinateurs, l'arcade, le salon, le dispositif mobile.
Le cinéma est un bon exemple parce qu'il est très encadré industriellement. Le livre, par exemple, alors là,
c'est la littérature, je pense.
Comparé au livre, on aurait des diversités. Une variété de formats, d'usages, de tout.
Moi, je pense que pour le cinéma aussi, on a une variété de genres, de films, et du coup, on n'a pas le même public, et les gens ne vivent pas la même expérience. Enfin, après, je pense que c'est pas si...
Non, mais ce qui différencie, c'est que là, c'est une question de mobilité, mais à la limite, quelque part, il est peut-être plus à comparer avec la mobilité du livre, que permet le livre, et qui permet peut-être de comprendre... Il y a autant de diversité dans la question de la lecture que parfois, à mon avis, quand on travaille avec les étudiants du Master 2, le sens du jeu, de leur dire analysez un jeu comme vous analyseriez un livre, quelque part. Mettez-vous dans cette situation, de développer une critique, pas en prenant les mêmes outils, en essayant de comprendre quelle est la mécanique, sa spécificité, sa différence par rapport à l'autre, comment il raconte une histoire.
J'avais une question sur. Tu l'avais évoqué sur les rencontres en IRL, ça. Et si par exemple il y avait un joueur qui avait dans une ville un certain charisme, parce que pour son nombre de points, son expérience, je sais pas, un certain type, peu importe, est-ce qu'une fois que le masque tombe, est-ce que ce charisme reste, est-ce qu'il est il est encore plus présent?
Ce qui est intéressant, c'est justement c'est là que Goffman nous permet de comprendre le cadre. C'est-à-dire que moi j'avais cette même idée. J'avais un cas, on voit une vidéo au moment d'un petit d'une chambre un peu bordélique, il y a un jeune garçon de 11 ans. Et lui c'était un cas intéressant parce que c'est un des garçons où la majorité de la guilde ignorait son âge, il le prenait pour un adulte. Et c'était en plus c'était très parti là que tu rentres dans le cali, tu comprends des logiques complexes. C'est quelqu'un qui avait une scolarité assez difficile. Qui était plutôt de milieu bourgeois, qui se trouvait dans un lycée populaire. Le père ne voulait pas jouer la carte scolaire. Donc il est en 6e, 5e. 5e, ça se passe très mal. Il vit sa scolarité très mal parce qu'il est. Là, il y a des travaux qui ont été faits, qualifiés de bouffon, d'intellectuel. C'est un intello, dans un lycée où l'intello n'est pas la norme. Et donc il le vit très mal et il somatise et il ne vient plus. Donc il s'investit dans le jeu vidéo et il devient chef de guilde, il gère. Donc, surprise à une rencontre IRL, on s'aperçoit que c'est un gamin. Et donc, il y a une espèce de. Donc là, à la fois de malaise, on rigole, et puis très curieux de rencontrer quand même ce garçon-là. Et moi, je m'étais dit, en fait, il va perdre son autorité, et non. En fait. Et dans le truc, dès qu'il est revenu dans la réalité, les rôles en fait traditionnels, voilà. Donc les rôles sont situés en fait, c'est ça qui est intéressant.
Parce que la séparation entre les deux mondes, elle est extrêmement.
Ouais, mais en fait, ça veut dire quelque part que la question de l'identité, c'est pas une affaire d'identité réelle virtuelle, c'est que les identités sont toujours situées en fait. Okay. C'est ça l'idée, c'est qu'elles sont situées dans le jeu, mais elles sont situées aussi. Si vous avez une identité située dans un groupe de parents, mais que vous êtes aussi syndicaliste ou je sais pas, enfin les identités sont toujours situées et que parfois d'ailleurs c'est difficile de jouer deux rôles différents, des choses comme ça. Mais ouais, là, oui.
C'est sur un autre truc, c'est que on parle, enfin dans la plupart des études de jeux vidéo que j'ai pu voir, on parle quasiment jamais du plaisir lié au fait de jouer, peut-être parce que c'est justement comme je disais tout à l'heure, ce qui est le moins sérieux dans le jeu.
Non, mais c'est ça.
Et en fait, là, de la typologie que tu nous as présentée, c'est clairement une typologie de différents types de plaisir. Plaisir d'exploration. Et est-ce que, comment en parler de ce plaisir, ces différents plaisirs dans un même jeu? Et est-ce que les joueurs en parlent entre eux? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant?
Il y a moins de choses là-dessus. Alors, en fait, pour traiter cette question, c'est vrai que la question du plaisir, on l'évacue toujours. Enfin, moi, c'est un élément que j'ai demandé, enfin, vraiment, qui était central. Hein, la question, quand je parlais d'expérience, c'était aussi l'expérience du point de vue des joueurs, c'est-à-dire leur plaisir, hein, où est-ce qu'ils situent leur jouissance, enfin, leur plaisir. Et alors, justement, pour éviter, parce qu'en fait, on trouve la question du plaisir dans l'analyse du jeu, dans les théories du jeu, mais c'est la psychanalyse qui s'en est emparée. Et c'est-à-dire qu'elle va dire jouer, c'est jouir. Ça, c'est château, il y a toute une tradition, et la psychanalyse, c'est emparé d'ailleurs du jeu vidéo en trouvant des modèles et où elle va mettre la question du plaisir, de la jouissance au sens psychanalytique. Moi je voulais pas tomber dans cet écueil là parce qu'il me semble que ça pose des problèmes. Alors je suis plutôt pour traiter cette question là, je suis tombé sur le fameux théoricien du flow, dont je vous dirai pas le nom, mais je veux dire quelque part il évite l'écueil d'une lecture psychanalytique. Enfin, même si la lecture psychanalytique peut avoir un intérêt, mais lui c'est quelqu'un qui s'intéresse à des propriétés de n'importe quelle activité, dont le jeu, pour traiter la question du plaisir. Voilà. Et lui il essaie de l'objectiver un peu avec des questions de difficultés entre réalisation et contrainte. Voilà. Il me semble qu'il permet de la traiter sans rentrer, pour éviter, parce que je vois pas quel cas de théorie qu'on a d'autres pour parler de la question du plaisir.
Là, on touche aux limites du discours scientifique. Les limites réelles, quoi. Tu es objectif de la subjectivité, le simple fait que tu le décrives et que tu produises des catégories, des types de plaisir, si tu es déjà à distance.
Ça
c'est infernal. Et alors, c'est l'objet évidemment central.
Et il y a un super article là-dessus de Dubé que j'ai lu. Qui est dans. Je suis désaccord avec Dubé, des fois il écrit des trucs grands, je trouve vraiment marrant. François Dubé, donc il est plutôt spécialiste de l'école, mais il décrit, en fait, c'est dans le manuel de sociologie, le nouveau manuel de Singly, et en fait, il invente une partie de tennis. Et il dit, parce que lui, il joue au tennis, tout ça, et il imagine trois sociologues qui viennent le voir pour lui expliquer le tennis. Donc il dit, il y a un sociologue durkheimien qui va venir et qui va lui expliquer pourquoi il aime bien le tennis. Et qui va lui dire qu'il ne savait même pas, ça vous traverse, hein, ou plutôt bourdieusement, c'est vous ignorez les vraies raisons pour lesquelles vous aimez le tennis. Il dit ça, c'est l'approche. Voilà. Donc effectivement, on la gomme la question du plaisir au profit du goût. On va dire goût et plaisir, finalement, c'est la même chose. Et après, il analyse un plutôt de type anthropologique, plutôt fonctionnaliste, hein, en montrant que. En fait, son plaisir, donc le deuxième sociologue vient le voir, et que son plaisir, en fait, il est lié à une ritualisation. C'est plutôt aussi un théoricien de la justification, et de dire finalement, il y a une logique de compensation très forte dans sa pratique, mais que, en fait, son plaisir est là. Et le troisième, ce sera un interactionniste, ou alors même un ethnométhodologue, qui va expliquer exactement tout ce qu'il a fait pour produire la réalité à laquelle il a joué, qui s'appelle tennis. Mais bon, dans les trois cas, personne ne lui parle de son plaisir et on ne va jamais écouter sa question du plaisir. Et je pense que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que les sciences sociales ont du mal à aborder le plaisir, sinon avec la psychanalyse, sinon, sur des bricolages. Moi, j'ai essayé de la traiter par les théories du jeu, enfin par des catégories de jeu, quoi, en montrant qu'en fait, l'expérience, elle est.
décrit une réussite extraordinaire. Pour 22, moi, 26 heures, hein, ça veut dire qu'on trouve des satisfactions dans ce branchement-là.
En même temps, c'est une question qui n'est pas facile non plus pour le joueur. Parce que pour un joueur, c'est pas non plus évident forcément de définir pourquoi on s'amuse dans un jeu.
Complètement.
Oui, mais inversement, le sociologue, il va jamais dire, quand il dit pourquoi tu joues, il va lui dire parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai du plaisir. Ouais, généralement, c'est pas une réponse qui intéresse le chercheur.
Je me demandais dans les catégories finalement de plaisir, tu vois, l'explorateur, le gars qui fait du PVP, je sais plus comment tu les définis. Le combattant, je ne sais pas, le terme employé, mais est-ce que finalement ces gens-là n'ont pas des pratiques de jeu qui sont en réalité identiques ou très très proches?
Oui, oui,
mais est-ce qu'ils ne font pas tous la même chose? C'est-à-dire celui qui dit moi j'aime explorer, bon ben il fait son HL avec.
Moi je m'en sors en disant qu'en fait ils trouvent leur flow dans des activités dont les mécaniques ne sont pas sensiblement les mêmes. Mais ce qui est produit au final, c'est ça. Moi c'est ça en fait. Il y a un slide que j'ai viré qui est. Les théories du flow, enfin en gros l'expérience et le flow des joueurs en fait ils se trouvent dans des agencements ludiques qui sont complètement différents.
Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est pas forcément mesurable, mais je peux demander aux gens quand est-ce qu'ils ressentent le plaisir. Je pense que là pour le coup c'est différent entre les explorateurs et les... Il y a beaucoup de jeux où on passe des heures et des heures pour ressentir un moment de plaisir. Alors après, c'est pas impossible qu'avant il y ait une forme de plaisir qui ne peut pas forcément être décrite comme telle.
Oui, bien sûr, parce qu'en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas évoqué, parce que là je donne à voir un univers de plaisir, c'est que des fois c'est très chiant de jouer. Et c'est, les joueurs le disent, c'est-à-dire ils ont farmé.
Farmé les voyages.
Mais même ils ont refait 10 fois pour looter un truc, ça n'a pas marché.
Et je pense qu'il y a vraiment. Après, c'est de l'introspection, mais j'aime bien jouer aux vieux jeux parce que les vieux jeux, il y a une forme de plaisir qu'il n'y a plus dans les nouveaux, qui est de réussir un truc super difficile, ok, on a échoué 4 fois. Est-ce que les explorateurs ont cette forme de plaisir, par exemple?
Mais en fait, là, tu proposes une entrée vachement intéressante qui serait de savoir qui serait la question de savoir est-ce que selon les activités, il y a des pointes de plaisir ou est-ce que c'est du plaisir continu? Parce que chez les explorateurs, il y a l'idée que leur plaisir, il démarre sur la découverte, en fait. Mais en fait, il y a tout un débat entre jeu et exploration. Parce que pareil, moi, j'inscris... les théories de l'exploration, elles viennent d'abord des enfants. C'est-à-dire, et si vous regardez les jouets, tous les premiers jeux qu'on donne, c'est des jeux d'exploration et de manipulation, des choses comme ça. Et donc, est-ce que le plaisir, il est continu là ou pas? Ou d'autres qui sont plutôt sur les questions agoniques, leur point de plaisir, ça va être un combat. Alors que la soirée a été nulle toute la soirée.
Et tu vois, sur l'exploration, finalement, c'est quelque chose qui apparaît très tôt dans les jeux vidéo et sous une forme qui me paraît, là, pour le coup, complètement en rupture avec le jeu enfantin. Si on voit, l'histoire des jeux comme ça, les premiers trucs d'exploration, c'est des machins comme Hunt the Wumpus, des jeux dans lesquels il y a du déplacement tour par tour séquentiel sur un espace qui est complètement abstrait, qui est de l'ordre d'une grille. Et le grand jeu d'exploration, le premier dans les années 70, en 72, c'est Star Trek. Une grille de 9 par 9, un espèce de vaisseau représenté avec un symbole, et qu'on déplace comme ça dans cet univers. Donc chaque nœud de 9 par 9 donne accès à un autre secteur de 9 par 9. On peut scanner des trucs alentour et il faut chasser les autres vaisseaux. Enfin, tu vois, un espèce de jeu extrêmement rudimentaire, extrêmement symbolique. Alors ça, c'est de l'exploration. C'est un vieux truc du jeu vidéo. Une très vieille puissance du jeu vidéo, explorer un monde comme ça dans sa profondeur, à l'intérieur de la machine qui a sa cohérence et qui est en même temps archi différent là pour le coup de l'exploration à la Païda, si on veut reprendre des catégories de Kaiwa, c'est-à-dire libre, discontinue, tohuboesque, inventive, imaginative, qui est celle des gamins. Donc tu vois, la forme d'exploration que tu as là et qui a un noyau comme ça dur, c'est un truc très différent.
Mais en fait, c'est
pas du tout des enfants qui
ça, jouent, c'est ça, une question juste pour dire, il y a un débat qui traverse, enfin en tout cas c'est moi qui le construis comme ça, il y a un débat qui traverse en ce moment la sociologie pragmatiste en France, entre des gens comme Antoine Aignon qui travaille sur les amateurs, sur le goût, ou des gens comme Cauchois qui travaille sur comment on choisit les produits dans les supermarchés, et sur la socio-économie comme ça des médiations marchandes. Et eux, ils distinguent notamment ce que les pragmatistes appelleront l'enquête et ce qu'ils veulent appeler aussi la curiosité. Et tu vois, quand tu dis exploration, en fait, il peut y avoir des choses très différentes derrière, parce que tu peux être du côté de l'enquête, et donc effectivement être en quête de quelque chose, d'un objet
et tu peux être dans une logique de curiosité. Mmh. Et dans les deux cas, tu accueilles la nouveauté, mais c'est pas du tout le même type d'accueil. Ouais, quoi, parce que dans le cas de la curiosité, tu accueilles une nouveauté que tu n'avais pas anticipée. Et voilà. Alors que dans le cas de l'enquête, tu es content quand tu as trouvé le truc. Et l'explorateur, il peut être vraiment dans les deux.
Moi, je maintiens quand même la continuité. Parce qu'en fait, et je renvoie là à Mathieu Letourneux. C'est un type qui travaille, c'est super ce qu'il écrit. Il travaille sur la littérature, les romans Barbie, Warhammer, qui ont repris tout ça. Et lui, il a une thèse que Rotan Bougère aussi, enfin qu'ils ont en commun, c'est qu'en fait, ce qu'il montre, il explique la littérature pour enfants, et notamment le succès des clubs des 5. En montrant qu'en fait, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça marche autant. Sa thèse, c'est de dire parce que ça raconte un jeu que les enfants connaissent, qui est, voilà, et qui est le jeu de l'exploration. Effectivement, si tu regardes, et moi je m'étais amusé aussi à faire ça dans ma thèse, à reprendre un passage du petit Nicolas, où en fait il décrit, je crois c'est l'épisode où il découvre le terrain vague. Et il raconte avec un blog d'un joueur de WoW qui raconte en fait la découverte d'un nouveau donjon. Et il me semble qu'il y a des points communs et que quand tu prends tout ce qu'il y a autour de la culture enfant, le club des 5, c'est un jeu de découverte, d'exploration.
Tu sais que c'est ce que dit Miyamoto pour Super Mario. C'est inspiré par le terrain vague. Mais moi je suis assez sceptique sur la continuité, parce que j'ai quand même l'impression que du côté des formes de jeu enfantines, il y a, disons, une puissance de renégociation des règles, basculement d'une activité à une autre, que tu décrivais de la cour de récréation, qu'on va beaucoup plus difficilement trouver du côté des jeux informatisés. Bon, sachant que, bien sûr, si on se place dans WoW, c'est déjà un truc tellement avancé dans l'histoire des jeux, que les propriétés comme ça, le rapport dur à la machine, dans lequel on voit tout de suite les limites du monde et les limites de ton combat qui cogne en permanence, et tu t'arranges pour surtout ne pas t'y cogner pendant que tu joues, pour garder la dimension exploratoire vivante, c'est quelque chose qui me semble important. Donc j'ai l'impression, je suis tout à fait d'accord pour l'idée qu'il faut vraiment les inscrire dans l'espace des jeux. Mais il y a de la continuité, puis il y a des points de discontinuité qui sont intéressants.
Je ne dis pas que c'est la même chose, mais je suis quand même dans l'idée, en étudiant par exemple Pokémon, il est intéressant le discours du concepteur de Pokémon, parce que qu'est-ce qu'il dit, enfin, la thèse sur laquelle on travaille, c'est la question du recyclage de la culture enfantine dans les produits contemporains. Et qu'on dit pas, mais si vous regardez certains des succès, c'est-à-dire que l'idée c'est que les concepteurs ont eu une enfance marquée par des jeux et qu'ils les recyclent. Ils les recyclent dans les nouveaux produits. Et en fait, le créateur de Pokémon, il dit pas autre chose. Il dit en fait, moi, quand j'ai créé Pokémon, c'était une commande. Et je l'ai créé, je me suis rappelé d'un jeu que je faisais quand j'étais petit. Alors, il y a une dimension mythologique derrière, mais prenons-le un peu quand même au sérieux. C'est de dire en fait, moi je me rappelais d'un truc qui était un combat d'insectes qu'on faisait. Et c'est vrai que c'est. Si vous prenez les jeux de Jean Château qui répertorie le combat d'insectes, c'est un truc traditionnel. Apparemment, au Japon, c'était un truc assez.
En Chine, on fait ça avec les morts religieuses, par
exemple. Et de dire, en fait, ce qu'il a fait, c'est que. Donc, je suis vraiment d'accord, dire, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Et justement, c'est de comprendre ce qui est recyclé. Et ce qui est.
Je connais des enfants qui sont venus à collecter les chenilles et se faire combattre entre elles après avoir joué à Pokémon.
Donc derrière, moi, derrière tout ça, je me dis, il y a de la culture ludique et de la culture enfantine.
Pour la question du plaisir dans les jeux vidéo, est-ce qu'on se pose aussi la même question pour tous les autres jeux, ou est-ce que c'est un traitement différentiel pour les jeux vidéo?
C'est-à-dire,
est-ce que la question du plaisir, on la pose qu'aux jeux vidéo comme si c'était pas un plaisir légitime?
Non, je pense sur les pratiques culturelles. C'est le reproche que fait Pasquier, je trouve, qui est très intéressant. Aux analyses de type bourdieusienne sur l'art, par exemple, sur le rapport au musée. C'est-à-dire qu'il a dit, en fait, il s'intéresse, on va mettre en corrélation des variables et tout ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de. Enfin, un peu, c'est ce que dit Aignan aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait faire aux joueurs. C'est-à-dire. Donc, je pense que la critique que la socio écarte parfois, strictement la question du plaisir. Je pense sur d'autres choses.
Aignan ou d'autres, c'est l'inspiration pragmatiste qui est derrière, et c'est des gens comme John Dewey. Et l'idée qu'on trouve chez John Dewey, qui fait aussi des travaux sur l'éducation qui est très intéressante, c'est qu'il y a une continuité. C'est des choses qu'il faut regarder au niveau des activités humaines. C'est-à-dire notamment, il parle de continuité entre jeu et travail, etc. Bon, c'est aussi dans les débats sur l'éducation, justement.
Mais justement, le truc du
contre l'éducation comme discipline, il dit, en fait, déjà dans le jeu, les enfants apprennent des choses.
Je dis l'article de Dubé, enfin vraiment, je vous fais la référence, il est marrant là-dessus, sur trois sociologues qui analysent une partie de tennis. Et en fait, les trois, donc plutôt un trait durkheimien, tout ça, en fait, ils vont se trouver emmerdés avec la question du plaisir. Enfin, ils vont la réduire ou ils vont la. Donc c'est assez intéressant.